Chapitre 20, les mutilations du traité de Versailles, suite, l'organisation des frontières. En de telles matières, quelques indications puisées à bonne source suffisent à nous permettre de prendre acte des résultats. Je n'ai sans doute aucune compétence militaire, mais il n'est pas besoin d'une spécialisation de l'intelligence pour reconnaître des fortifications. De 1920 à 1928, deux écoles sont en présence, celle des régions fortifiées et celle des lignes continues, dont les noms indiquent les principes. Pendant 8 ans, on se dispute sans résultat. Enfin, en 1928, l'école des régions fortifiées l'emporte. C'est donc ce système qui va être appliqué. On a perdu près de 10 ans en querelles stériles. Le système des régions fortifiées va être appliqué uniquement à la partie de la frontière du Nord-Est qui s'étend du Luxembourg à la Suisse. Pour le reste, frontière franco-belge et frontière franco-suisse, on compte que la Belgique et la Suisse organiseront leurs frontières allemandes. La terrible leçon de 1914 n'aura donc servi à rien. Pour l'exécution du système des régions fortifiées, deux aspects, aspect financier, aspect technique. Aspect financier, le Parlement a voté les crédits qu'on lui a demandés, 5 à 600 millions. On en a à peine dépensé le dixième. Aspect technique, le ministre et ses collaborateurs militaires non seulement n'ont rien fait en tant que travaux de construction, mais au 1er novembre 1929 n'avaient encore rien commencé. Et lorsque le ministre déclare publiquement qu'à la fin de 1930 les travaux de fortification seront très avancés, il se moque de nous. Au 1er novembre 1929, du Luxembourg à la Suisse, aucun travail d'aucune sorte n'a été commencé, ni même piqueté ou indiqué par une simple pancarte. La frontière est complètement ouverte et le sera encore longtemps après que la troisième zone rhénane aura été évacuée. L'explication de cette lamentable situation financière et technique est des plus simples. Pour concevoir, puis réaliser une organisation des frontières donnant le maximum de sécurité, il eût fallu commencer par constituer un organisme de travail puissamment et largement outillé, ayant à sa tête une haute personnalité militaire qualifiée. Elles ne le sont pas toutes. En une année, cet organisme aurait mis sur pied un système solide et cohérent de protection des frontières s'étendant de la mer du Nord à la Méditerranée, et pas seulement entre le Luxembourg et la Suisse. Les travaux auraient pu ainsi commencer en 1921 ou 1922, d'après un ordre d'urgence rationnel et sur plusieurs points simultanément. À l'heure actuelle, il serait terminé et l'évacuation de la Rhénanie ne nous trouverait pas avec une frontière ouverte. Au lieu de cela, qu'a-t-on fait? On a confié l'exécution de l'organisation des frontières à 2 lieutenants-colonels du génie, aidés par quelques officiers d'administration et respectivement installés à Metz et à Strasbourg. Ces deux chefs du génie ont, à côté d'eux, dans ces deux grandes villes, des généraux commandant la région et même un général membre du Conseil supérieur de la guerre. Il semblerait indiquer qu'ils travaillassent sous les ordres de ces généraux, dont chacun d'eux est responsable d'un créneau de frontières. Il n'en est rien. Les deux officiers du génie dépendent, sans intermédiaire, de la direction du génie au ministère de la guerre. Ils ignorent généraux et états-majors qui vivent à côté d'eux. Le ministère de la guerre et l'état-major de l'armée ont traité cet immense et grave problème d'organisation des frontières comme s'il s'agissait de doter une caserne d'une nouvelle salle de douche. On a employé les agents d'exécution habituels pour ces sortes de travaux, à savoir les chefs du génie. Ces derniers, selon la coutume, ont établi, comme pour dépenser quelques centaines de francs dans une caserne, des avant-projets, des projets et des projets définitifs, tous discutés et remaniés sans trêve, circulant indéfiniment pendant des mois et des mois entre les chefferies et le ministère, pour aboutir à cet incroyable, mais trop réel résultat que 10 ans après la fin de la guerre, aucun travail d'aucune sorte n'est encore commencé en un point quelconque de la frontière franco-allemande, sauf un bout de route et quelques kilomètres de chemin de fer d'Écouville. Il est matériellement impossible à 2 lieutenants-colonels du génie, perdus dans l'espace, écrasés par l'énormité de la tâche et des dépenses, de réaliser leur œuvre autrement qu'au compte-gouttes et dans des conditions déplorables. Ils n'ont rien fait jusqu'à présent et ne feront rien qui vaille aussi longtemps qu'on s'en tiendra à cette désastreuse conception. Ainsi donc, au début de l'année 1930, cette année qui verra se terminer l'occupation rhénane, la frontière française restera ouverte de la mer du Nord aux Alpes. À défaut d'une couverture absente de béton et de fil de fer, avons-nous au moins une solide couverture vivante composée de bonnes divisions instantanément en place dans les différents secteurs de la frontière? Il n'en est rien. Dans un article récemment paru dans la Revue des Deux Mondes, le général Debenet, défenseur naturel de l'organisation à laquelle il préside, la présente sous le jour le plus favorable. Il ressort de son article, premièrement, que la couverture étant composée de toutes les divisions du temps de paix, la dite couverture comprendra, par conséquent, des divisions très éloignées de la frontière nord-est et ne pourra être complètement en place qu'une quinzaine de jours après l'ouverture des hostilités, une quinzaine pendant laquelle les Allemands ne seront probablement pas inactifs. Deuxièmement, que ces divisions, en raison du service d'un an, seront à peu près certainement composées de « disponibles », terme nouveau destiné à remplacer et masquer celui plus inquiétant de « réservistes », c'est-à-dire d'hommes pratiquement non instruits. Ces hommes auront en face d'eux, au début des hostilités, au moins 250 000 soldats allemands de métier, parfaitement instruits et parfaitement entraînés. Troisièmement, que les forces françaises seront difficilement en état de prendre l'offensive et de troubler les préparatifs de l'offensive allemande. Quatrièmement, que le cas échéant, les forces françaises ne pourront que se replier, comme elles l'ont fait en 1914, jusqu'à la Marne et à la Seine, et que la lutte se déroulera toujours comme en 1914 sur le territoire français, sans qu'il faille s'en émouvoir outre mesure, puisque finalement, en 1918, nous avons bien été vainqueurs. Je n'ai pas à chercher ici qui est responsable de l'état lamentable où se trouve aujourd'hui la défense nationale. Il y a des ministres qui se sont succédés rue Saint-Dominique depuis 1920. Mais il y a surtout les chefs militaires qui ont été les conseillers techniques et les guides de tous les instants de ces ministres et de leur gouvernement, le maréchal Foch en première ligne. Qu'ont-ils fait, ces chefs militaires, pour nous donner une frontière puissamment résistante? Rien. Quand ont-ils protesté contre cette absence d'organisation? Jamais. Après avoir tant parlé de la frontière du Rhin, sans négliger les effets oratoires, est-il donc concevable que le maréchal Foch n'ait pas cédé à la tentation de nous montrer ce qu'il pourrait faire du Rhin comme instrument de défense au moment même où le plus impérieux des devoirs lui en imposait la loi? Quoi, ce chef militaire qui se vantait si haut de pouvoir établir sur le Rhin une frontière invincible s'en est tout à coup désintéressé et laisse une ouverture béante, comme s'il n'y avait pas de choix pour lui entre tout ou rien. Et moi qui croyais que, restant à son poste, c'était pour accomplir le premier de ses devoirs.